clairement donc l'histoire du Son Taylor. Nous étions arrêtés donc dans les années 1869, quand Hudson Taylor était donc en Chine, quand un de ses enfants, âgé de 5 ans, tombe malade. Et donc, il est obligé de revenir en Angleterre et Hudson Taylor reste seul avec le dernier. En Chine, pendant les années 69-73, la situation politique se dégrade. Une des collaboratrices du Son Taylor, Madame Jude, est sauvée d'une grave maladie par la prière alors qu'elle était mourante, ce qui montre que déjà, bien que n'étant pas charismatique au sens que nous l'entendons, Son Taylor avait la foi dans la guérison divine. Et dans ces années-là, la foule s'est mise à massacrer sauvagement, notamment les religieuses catholiques, ce qui a précipité le départ des étrangers. À cette époque-là, donc, les Taylor perdent encore un enfant, et le 3 juillet de la même année, c'est Madame Taylor qui meurt. C'est à peu près classique dans l'histoire missionnaire du 19e siècle. Hudson Taylor reste seul avec son dernier enfant, et qu'il laisse d'ailleurs sur place pour aller à Hangzhou pour continuer le travail. Là-bas, la situation des Blancs est devenue extrêmement précaire. Les bruits courent que les chrétiens enlèvent les enfants chinois pour les manger. Et c'est la raison pour laquelle les foules les massacrent. Au printemps de 1872, Hudson Taylor revient en Angleterre. Il a maintenant 30 missionnaires dans son organisation, 50 collaborateurs chinois et 13 stations missionnaires en Chine. Un couple de ses amis est remplacé il y a des changements dans la mission, disons d'une certaine manière. Et pendant qu'il revient en Angleterre, donc Hudson Taylor se remarie avec une mademoiselle Folding. Et le 6 août 1872, en Angleterre, il crée un comité pour l'évangélisation de la Chine. 2 mois plus tard, il repart pour la Chine avec sa jeune femme et il se rend à Hangzhou où il y a toujours de très très gros problèmes. Les problèmes viennent aussi de ce que les dons diminuent, alors qu'il y a 170 personnes à soutenir et 50 bâtiments à entretenir. Hudson Taylor, comme George Muller, a pour principe de ne pas faire d'appel d'argent, de s'attendre à Dieu uniquement. Et c'est alors qu'au moment où la mission passe un moment difficile, il continue à s'attendre à de grandes choses. Bien loin d'envisager un repli, en quelque sorte, il envisage au contraire une extension de l'œuvre. Et son ambition, c'est de placer dans chaque capitale de province en Chine 2 évangélistes chinois, puis des colporteurs dans des centres moins importants. Alors que précisément les ressources diminuent, son premier objectif, c'est le Xinjiang, donc la région nord-ouest de la Chine. Et il demande à Dieu de lui envoyer 50 ou même 100 évangélistes chinois et autant de superintendants étrangers. Donc c'est un pas de la foi considérable. Et à chaque pas de la foi correspond pour lui un temps de difficultés, de souffrances très grandes. Et ces difficultés l'amènent à s'abandonner à Dieu d'une manière encore plus particulière. Et c'est alors que le miracle s'accomplit. Il reçoit un don très important, et qui permet l'expansion de l'œuvre comme il l'avait envisagé, notamment dans le Xinjiang. L'église de Hangzhou envoie son premier missionnaire qui est soutenu entièrement par l'église indigène. Et ça, c'était le grand principe de Hudson Taylor, amener l'église indigène à s'autosuffire et à elle-même envoyer ses propres missionnaires. Il y a donc, grâce à cela, une grande expansion, des nouveaux baptêmes, et Hudson Taylor estime que dès qu'une œuvre commence à mendier de l'argent, c'est le signe qu'elle est en train de péricliter et de mourir. Et avec le missionnaire Hude, il se rend donc à Nankin. Et là aussi, malheureusement, de nombreux missionnaires sont atteints par des maladies de là-bas et il perd plusieurs de ses collaborateurs dans cette période-là, qui meurent. Lui-même est blessé au pied et il en résulte une paralysie générale des membres inférieurs. C'est à cette époque-là que les journaux anglais commencent à s'intéresser à ce qui se passe en Chine. Finalement, Hudson Taylor crie à Dieu pour sa santé et il est guéri miraculeusement. À la suite de la campagne qui a lieu en Chine, qui a lieu en Angleterre, 60 volontaires se présentent pour l'année suivante pour venir le seconder en Chine. Il est aussi abordé par un noble russe qui veut voyager avec lui et qui lui remet une grosse somme d'argent pour son œuvre. Ce qui lui permet d'implanter des œuvres nouvelles, notamment à la frontière de Birmanie. Hudson Taylor est arrivé à la conclusion que l'œuvre de Dieu passe par trois phases. La première phase, c'est celle où les choses sont impossibles. Alors il faut surmonter par la foi cette première phase. Alors on entre, dit-il, dans une deuxième phase, celle où les choses sont très difficiles. Et si on surmonte par la foi cette deuxième phase, on entre dans la troisième phase, celle où les projets sont enfin réalisables. Pour lui, atteindre l'intérieur de la Chine à cette époque-là est quelque chose qui est encore dans la phase 1, c'est-à-dire dans la phase de l'impossible. Bien qu'il ait déjà 39 stations missionnaires dans la Chine, et c'est alors qu'il va repartir avec sa sœur et son beau-frère pour s'enfoncer au début de septembre 1876 avec les familles, ça représente à peu près 10 enfants, à l'intérieur de la Chine. Le moment semble particulièrement mal choisi, il y a des menaces de guerre et les portes sont fermées. Mais Dieu a donné 18 collaborateurs nouveaux et il va prier et intercéder auprès du Seigneur, de telle sorte que le 13 septembre 1873-76, les portes s'ouvrent. Ça veut dire que les étrangers qu'ils sont obtiennent des autorités chinoises le droit de circuler partout où ils le veulent. En fait, c'est uniquement les missionnaires qui vont avoir ce droit pendant les années qui vont suivre. Et c'est ainsi qu'au bout de 18 mois, les collaborateurs d'Hudson Taylor et lui-même vont pénétrer dans tout l'intérieur de la Chine, c'est-à-dire ce qui était son objectif depuis les origines, et atteindre les frontières du Tibet. Ils vont distribuer des millions de traités après avoir parcouru 50 000 kilomètres. Ils arrivent dans le Yunnan, où s'établit le missionnaire Yud, puis la région de Hanan. Hudson Taylor tombe malade alors à la suite d'un refroidissement, mais un de ses collaborateurs, McCarthy, en 7 mois va traverser toute la Chine. Les missionnaires de la China Inland Mission s'efforcent toujours d'avoir des bons rapports avec les missionnaires des autres sociétés missionnaires qu'ils pourraient rencontrer. Et en février 77, il y a une nouvelle station qui est établie dans le nord de la Chine. Mais cette région est menacée par la sécheresse. Et Hudson Taylor va s'efforcer d'envoyer des secours dans ces régions-là. Il envoie ses secours avec des nouveaux pasteurs évangélistes chinois qu'il a formés. Et à Noël de cette même année, il rentre en Angleterre. Il a alors 7 enfants de ses 2 mariages, dont une fille adoptive. Et là, il fait des tournées dans les églises pour que 24 hommes et femmes se lèvent, 24 collaborateurs supplémentaires pour l'année 1878. Il reçoit des nouvelles de Chine, comme quoi la famine est telle que de nombreux Chinois sont vendus comme esclaves. Alors, il décide de retourner en Chine le 2 mai 1878. Sa femme abandonne, ou plutôt laisse en Angleterre, ses 7 enfants pour l'accompagner en Chine. Il est accompagné de 30 nouveaux ouvriers. Et avant de se rendre en Chine, il part pour la Suisse pour placer ses enfants dans une maison spéciale pour que, pendant qu'ils sont en Chine, quelqu'un puisse s'occuper d'eux. Il décide aussi d'envoyer des femmes à l'intérieur de la Chine. Dès qu'il arrive en Chine, il est lui-même atteint par une grave maladie. Et à nouveau, il doit crier au Seigneur pour que sa santé soit rétablie. Il construit aussi, il a un vaste programme pour construire des hôpitaux, des sanatoriums en Chine, et c'est la nouvelle étape de ce projet qu'il va réaliser dans cette année 78. En 1880, il y a à l'audace d'envoyer des femmes seules à l'intérieur de la Chine. Les premiers contacts qu'elles ont sont bons. Et il en envoie donc deux d'abord dans le nord de Hangzhou. Et puis ensuite, monsieur et madame Parker partent pour une région qui est profondément marquée par l'islam. Ils demandent qu'en Angleterre, 70 ouvriers nouveaux puissent se lever et le rejoindre. Et dans son projet pour les 6 années qui viennent, c'est de pénétrer justement dans toute la Chine. De fait, il a presque atteint déjà l'ensemble du pays. La Mandchourie, le Tibet, la Grande Muraille ont été atteints par ses missionnaires et il envisage d'établir un travail durable et non plus simplement de faire quelques passages avec des traités, des choses semblables. En octobre 1880, sa femme rentre en Angleterre. Et c'est alors que, aussi bien lui que sa femme, perdent leur mère. Éclate alors une crise dans la mission parce qu'on n'a plus les moyens de faire face aux problèmes financiers qu'elle pose. À nouveau, il se tourne vers Dieu. Et bien loin de se laisser arrêter, il demande à Dieu de lui envoyer 70 nouveaux missionnaires. Mais là, la prière reste inexaucée, du moins pour un temps. Et à la fin de l'année, il repart pour l'Angleterre pour faire pendant le printemps et l'été une série de réunions pour sensibiliser les églises à la situation en Chine. Il est aussi très très soucieux de ne pas apporter, en quelque sorte faire trop de publicité pour l'œuvre en Chine, car il ne voudrait pas que les besoins immenses de la Chine déséquilibrent le budget des autres stations, des autres œuvres missionnaires, que l'expansion, si vous voulez, du travail en Chine se fasse au détriment des autres champs missionnaires d'Afrique ou d'ailleurs. Alors, c'est avec beaucoup de prudence qu'il fait part des besoins de l'œuvre, et il arrive à un moment, en 1884, où, à Cambridge en particulier, éclate un réveil parmi les étudiants. Et parmi les étudiants, certains vont répondre à l'appel d'Hudson Taylor et se lever pour la Chine. De telle sorte que le 1er janvier 1885, mission accomplie, il s'embarque à nouveau pour Shanghai. Stevenson, qui est un ancien missionnaire en Birmanie, devient alors son adjoint de direction. Et en fait, Hudson Taylor, là, c'est un point sur lequel on ne peut pas être d'accord, accepte des femmes prédicatrices. Et parmi les femmes qu'il envoie, certaines sont envoyées tout simplement pour prêcher. Il s'oppose à ce que l'on arrête la prédication pour s'occuper d'œuvres sociales. Le social, il s'en occupe. Il crée des hôpitaux, il crée des œuvres de ce type-là, mais elle doit venir après la prédication de l'Évangile. La prédication de l'Évangile doit avoir la priorité sur tout le reste. Il veut que les gens se convertissent et non pas que les gens reçoivent une éducation. Pour lui, les œuvres sociales sont une activité auxiliaire et elles doivent le rester. Dans sa prédication aussi, Hudson Taylor insiste sur le retour de Jésus. Il est conscient que l'expansion missionnaire qu'ils sont en train de vivre prépare le retour de Jésus. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il faudrait que l'Évangile soit prêché dans le monde entier? C'est pourquoi il a hâte de prêcher l'Évangile aussi dans la Chine tout entière. Il est aussi très très sensible à la question de l'unité, notamment sur les questions relatives au salut. Et parmi les nombreux collaborateurs qui vont être les siens, il y en a qui viennent d'horizons ecclésiastiques tout à fait différents. Et la règle qui est celle qu'il institue dans sa mission, c'est que sur les questions essentielles, il faut absolument une unité doctrinale. Alors ensuite, on peut avoir des points de vue un petit peu différents sur des choses qui semblent un petit peu secondaires. En 1897, il a 110 missionnaires, dont essentiellement des jeunes. Il avait demandé à Dieu, vous vous souvenez, il y a déjà, la dernière fois on en avait parlé, tout à fait au début, ça semblait tout à fait irréalisable, de lui envoyer 100 collaborateurs. Et là, donc Dieu a répondu au-delà de sa prière, puisqu'ils sont 110 à cette époque. Il crée donc un conseil missionnaire, et il demande au Seigneur d'envoyer d'autres ouvriers dans la moisson. En 1897, il va voyager en Finlande et en Écosse. Et là, il voit enfin ses prières exaucées. Les ressources pour le soutien des 100 missionnaires sont enfin trouvées. Et c'est alors qu'il reçoit une invitation pour visiter les États-Unis. et il part fin janvier avec son fils et une secrétaire pour l'Amérique. Il a l'habitude de dire à peu près ceci: « Peu de gens savent ce qu'il y a entre le Seigneur et moi. » Ce pacte qu'il a passé avec lui, n'est-ce pas, de faire en sorte que toute la Chine puisse être évangélisée dans cette génération. Il reste aux États-Unis de juin à octobre. Il rencontre, entre parenthèses, à l'occasion Moody, qui est aussi très très sensible à cette œuvre parmi les missions, et qui décide de créer une branche américaine de la mission d'Hudson Taylor. Et avec Moody, donc, un comité est créé aux États-Unis. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, des différends qu'il faut régler entre les missionnaires, et c'est la raison pour laquelle il doit retourner en Chine. En août, il quitte les États-Unis. Et il avait prévu de visiter la Suède à la fin de l'année, ainsi que l'Écosse, mais il doit rentrer précipitamment pour régler les différends qui ont surgi entre les missionnaires. Alors, dans ces années-là, il va redoubler d'audace dans la foi. Puisque le Seigneur lui a permis d'avoir les 100 missionnaires qu'il avait demandé, maintenant il en demande 1000. Et il va essayer de mobiliser dans cette vision toutes les sociétés missionnaires. L'Australie, qu'il invite, ils seront là-bas et les églises d'Australie s'ouvrent à la vision. Et en hiver de cette année-là, Hudson Taylor revient avec ses grands projets. 70 ouvriers nouveaux lui arrivent effectivement dans les 3 semaines qui suivent. Mais à nouveau, des troubles éclatent en Chine et il y a des soulèvements dans la vallée du Yangtze-Kiang, surtout contre les catholiques, et des bâtiments d'une de ces missions sont détruits. Mais personne n'est atteint. D'autre part, les fonds d'Angleterre commencent à baisser et Hudson Taylor décide alors de donner l'autonomie financière à ses maximum en tout cas de missions. Et il crée un comité chinois pour l'administration de la mission. En 1893, un réveil éclate parmi les églises qu'il a fondées. Et de ce fait, les différends et les tensions qui avaient éclaté entre les missionnaires se résolvent. Des situations sont dédramatisées aussi vis-à-vis des autorités de Pékin. En 1893, son fils Howard Taylor arrive le rejoindre, le seconder, avec sa jeune femme. Puis, dans la foulée, arrivent 50 missionnaires scandinaves. Mais le 25 juillet 1894, la guerre éclate entre la Chine et le Japon. Et elle s'achève en février 1895 par la destruction de la flotte chinoise, la prise de Port Arthur. Il y a, à cette époque-là, 153 ouvriers autour de Taylor. La conséquence de la guerre, c'est que toutes les missions sont détruites dans les provinces centrales et il faut repartir, reconstruire sur des ruines. Des missionnaires ont été assassinés, mais l'œuvre va de l'avant malgré tout. Il y a aussi un autre objectif qui mobilise Hudson Taylor, c'est l'évangélisation du Tibet. Le Tibet, évidemment, est très fermé, c'est une région qui est marquée par le bouddhisme très fort. Et là, il y a aussi de grandes difficultés pour pouvoir pénétrer dans ce pays. C'est l'époque où aussi il y a des heurts entre Tibétains et musulmans. En 2 ans, 20 000 personnes sont massacrées. Puis, le choléra s'installe dans la mission, si bien que les portes du Tibet vont rester fermées. Mais 1895 est une année faste pour la mission internationale de la Chine. C'est l'année où il y aura le plus grand nombre de convertis. Pourtant, Hudson Taylor vieillit, il commence à s'affaiblir. Il visite l'Inde, puis il revient en Europe cette année-là. Et il réclame partout que le mouvement puisse aller de l'avant. Il est invité aussi dans le sud de la France et il fait quelques tournées là-bas. Et il va faire un gros effort de tourner en Angleterre pendant tout l'été avant d'aller se reposer en Suisse. À la fin de cette année 1895, il y a 90 000 chrétiens en Chine comme résultat de l'évangélisation d'Hudson Taylor. En 1898, la situation politique troublée se détériore encore. Et Hudson Taylor craint une véritable catastrophe lorsque l'impératrice douairière prend les choses en main. Cette femme elle devient impératrice de Chine, c'est une vulgaire courtisane qui est devenue la favorite de l'empereur et qui a réussi à se hisser au pouvoir par ses intrigues, c'est une femme extrêmement cruelle, et elle est hostile à tous les missionnaires. Et le 22 novembre 1998, elle fait exécuter le premier martyr, un Australien, un missionnaire australien qui est exécuté. Hudson Taylor revient en Chine, donc en été 1999. Il est très affaibli et il se rend compte que la situation politique n'est pas bonne. Il veut se rendre en Australie, en Nouvelle-Zélande et même aux États-Unis. Mais en 1900, l'impératrice douairière appelle à la révolte des Boxers. C'est la fameuse guerre des Boxers qui éclate, qui est dirigée essentiellement contre les étrangers et accessoirement contre les missionnaires. Ça va être une terrible catastrophe. Tous les étrangers sont voués à l'extermination. Les Boxers entrent à Pékin, des centaines de chrétiens sont massacrés et les autorités appuient le soulèvement des Boxers. Le 14 août, la révolte prend fin, heureusement. 58 missionnaires ont été assassinés, dont 21 enfants. Certains ont été torturés. Et c'est une véritable catastrophe. Les autorités nouvelles proposent un dédommagement, mais Hudson Taylor refuse, ce qui fait l'admiration des autorités anglaises. Parmi les martyrs, il y a un de ses proches collaborateurs, pasteur Cooper. Et M. Host va succéder donc à ce Cooper. Hudson Taylor, maintenant, est âgé, il est fatigué. Il va se retirer en Suisse, à Vevey. Il va rester directeur de la mission jusqu'en octobre 1902, qu'il va diriger depuis la Suisse. À l'été 1903, sa femme, Madame Taylor, la deuxième Madame Taylor, meurt. Et le 17 avril 1905, Hudson Taylor retourne pour la dernière fois à Shanghai. Et il va mourir là-bas, le 3 juin, dans la Chine, n'est-ce pas ? Il ne reverra jamais l'Angleterre. Donc ça, si vous voulez, l'épopée d'Hudson Taylor, pour dire l'œuvre missionnaire par excellence. Et à la fin du siècle, donc, il y a comme résultat de cette œuvre 500 stations missionnaires, un demi-million de chrétiens. Mais malgré la fin de la révolte des Boxers, la plupart des missionnaires sont regardés avec suspicion de la part des autorités locales. Et l'explosion, évidemment, est inévitable. Les catholiques, évidemment, sont ceux qui sont les plus mal considérés par la population. Mais il y a, malgré cela, après cette révolte des Boxers, un nouvel essor de l'œuvre en Chine. 10 ans après la révolte des Boxers, une nouvelle révolution éclate. Et cette fois-ci, la République est proclamée. Un chrétien, Sun Yat-sen, devient président de la Chine. Les chrétiens étaient une petite minorité dans la Chine, l'immense Chine, mais ils en étaient l'élite. Et c'est comme ça qu'un chrétien peut arriver à la présidence de l'État. On voit là tout le résultat extraordinaire qui a été celui justement de l'action d'Hudson Taylor. En Corée, en 1864, la mission aussi connaît un réveil. Et il va y avoir donc contact entre la Corée et la Chine à ce niveau-là. L'idée du réveil, c'est que chaque chrétien doit être un témoin et apporter ce qui est nécessaire pour supporter le ministère. Chacun doit avoir le style national. Il n'est pas question ici d'imiter ce qui se fait en Occident. De telle sorte que, en Corée aussi, dans ces années-là, il va y avoir un grand réveil après des succès extrêmement rapides de la mission. En 1890, les anglicans arrivent aussi en Corée. Et en 1898, les Espagnols sont chassés des Philippines, ce qui va permettre aussi l'implantation de missions dans cette région. Les Espagnols interdisaient jusqu'alors l'implantation de missions non catholiques et toute la population des Philippines était en principe catholique. En principe, évidemment. Alors, l'année suivante, 1899, arrivée de missionnaires aux Philippines appartenant à peu près à tous les groupements protestants. Et ça va être le début aussi d'une évangélisation de ces îles. Il y a un autre pays qui est fermé aussi aux protestants, c'est l'Indochine française. C'est tout à fait intéressant de constater que la République continue à interdire l'entrée en Indochine d'autres missionnaires que des missionnaires catholiques. Ça montre à quel point le catholicisme est aussi implanté dans notre pays. En Malaisie et en Indonésie, dans ces années-là aussi, l'Évangile va faire des progrès très importants et il va y avoir conversion de milliers de musulmans. L'Indonésie est un pays essentiellement musulman et en particulier en 1855 à Sumatra, une mission allemande voit éclater un très très grand réveil. De sorte que, en 1911, malgré de très grandes difficultés, il y aura dans ces îles plus de 100 000 chrétiens. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'en Indonésie, il n'y aura pas eu de rivalité entre les églises, de clivage entre les églises. Mais ce qui a été le drame de toutes ces missions, c'est que les missionnaires n'ont pas imaginé qu'un jour, les puissances coloniales pourraient se retirer. Par contre, Hudson Taylor, lui, l'avait vu. Et c'est pourquoi il avait insisté sur une église nationale, sur des structures qui soient celles d'une église nationale. Les Blancs sont conscients, plutôt croient posséder sur les indigènes une supériorité. Ils croient qu'ils sont faits pour être les maîtres. Et ça, cette idée, les missionnaires le partagent aussi. Et ça va être la source de très très grandes difficultés. Dans les îles du Pacifique, les missionnaires aussi progressent. John Patton va évangéliser les Nouvelles-Hébrides entre 1856 et 1863. Puis, ce sera la Nouvelle-Guinée, qui est la deuxième île du monde par sa superficie, quatre fois la Grande-Bretagne, où il y a 150 langues et 4 millions d'habitants. Il y avait encore à cette époque-là le cannibalisme. C'est en 1870 que débute l'évangélisation de la Nouvelle-Guinée. Et le premier évêque anglican est consacré en 1898. C'est un travail qui est long et difficile. Et après 25 ans de travail, on comptera en Nouvelle-Guinée uniquement 205 convertis. En fait, il y aura en Nouvelle-Guinée, à la fin du siècle, plus de missionnaires que de chrétiens. Les chrétiens sont rejetés de la société tribale. Et c'est quelque chose qui rend d'autant plus difficile l'évangélisation. Les possibilités de témoignage sont par conséquent réduites si on n'est pas dans la structure tribale. Quand on se convertit, on est exclu de la société finalement. Alors, il y aura finalement des conversions de tribus, et c'est ce qui va changer la situation. Et quand la tribu est prête, alors on peut baptiser l'ensemble de la tribu. Alors, tous sont-ils véritablement convertis? Ça, c'est un autre problème. Mais finalement, quand les tribus commencent à se convertir, eh bien, la progression d'évangile va être extrêmement rapide. En sorte qu'après avoir 25 ans obtenu simplement 200 et quelques convertis, dans les 25 ans suivantes, il y aura 200 000, 10 fois plus, 200 000 convertis. Les missionnaires ont fait là-bas un travail considérable sur le plan de l'alphabétisation, la fin du tuerie, des guerres tribales et des choses semblables. Et l'Évangile a été une véritable révolution pour le mieux de toutes ces tribus-là. En Inde, sous la direction anglaise, l'Évangile a fait des progrès comme on n'en avait jamais vu. Ça, c'est sûr qu'il y a aussi le fait que les Anglais ont construit un chemin de fer qui a couvert toute l'Inde et qui a permis des déplacements extrêmement rapides. Mais le problème de l'Évangile en Inde, ça a été les controverses entre les différentes dénominations. Puis il y a eu ensuite des mouvements d'hostilité de la part des hindous, qui ont développé d'ailleurs des mouvements anti-occidentaux qui aboutiront à l'indépendance. Parfois aussi, on a abandonné l'évangélisation pour s'occuper de travail social. Et ça a provoqué un ralentissement de l'expansion de l'Évangile. En 1841, les Cassis ont été évangélisés par des Gallois. Puis, ça a été le tour des intouchables, qui étaient ceux qui étaient les plus disposés à recevoir l'Évangile, puisqu'ils étaient hors caste. Et il y a eu de très très nombreuses communautés d'intouchables qui se sont ouvertes à l'Évangile pendant toute cette époque-là. En Inde aussi, il y a eu un très important mouvement des unions chrétiennes de jeunes gens. Ça a contribué aussi pour une grande part à l'évangélisation de toute cette région-là. Voyons maintenant ce qu'a été l'évangélisation du Moyen et du Proche-Orient. Là, les choses ont été beaucoup plus difficiles. En 1829, la mission de Bâle, mission suisse, donc, a établi une œuvre en Perse. L'Égypte était à cette période-là contrôlée par les Anglais, de telle sorte que dès 1812, les missionnaires ont commencé un travail missionnaire là-bas. En collaboration d'abord avec l'Église copte, mais ça a été difficile, la collaboration a été difficile. Finalement, quand même, un certain esprit œcuménique a pu s'établir. En Afrique du Nord, en 1829, ce qui a commencé, c'est d'abord une mission anglicane en direction des Juifs. Les autorités musulmanes ont autorisé donc que l'on évangélise les Juifs. Et puis, lorsque le Maroc est devenu français en 1875, on a pu évangéliser aussi le Maroc. Et puis ensuite, évidemment, d'abord, ça avait été l'Algérie 1850. L'Afrique, voyons ce qui concerne l'Afrique maintenant. La plus grande figure est vue, évidemment, de l'évangélisation de l'Afrique de cette période-là, c'est David Livingstone. David Livingstone, 1813-1873. David Livingstone est né près de Glasgow, d'une famille pauvre. Il a commencé à travailler très jeune dans une usine de coton. Et c'était un passionné d'études, de telle sorte que, avec le premier salaire qu'il a obtenu, il s'est acheté une grammaire latine. Il faut le faire. Si bien qu'en 1830, il entre à l'université de Glasgow, où il étudie la médecine et la théologie. Son but, c'est de devenir missionnaire en Chine. Il a entendu parler d'Hudson Taylor, etc. Et c'est pourquoi en 1838, il offre ses services à la London Missionary Society. C'est l'époque où fait rage la guerre de l'opium en Chine. Et c'est l'époque aussi où l'Afrique du Sud est évangélisée par un certain Robert Moffat, qui fait des appels en Angleterre pour que des collaborateurs le reviennent. Lui arrive. David Livingstone, en 1840, entend parler des besoins de l'Afrique du Sud. Et comme la route de la Chine est fermée en raison de la guerre de l'opium qui fait rage là-bas, il décide de rejoindre Moffat en Afrique du Sud. En 1843, il commence son travail là-bas. Il est d'ailleurs sauvé miraculeusement de la mort parce qu'il est attaqué un beau jour par un lion qu'il parvient à tuer. N'est-ce pas ? En 1845, il épouse la fille aînée de Moffat et il crée donc dans le nord du pays un certain nombre de stations missionnaires. Il se heurte pour cela à l'hostilité des Blancs, les Bourgs, qui estiment que l'évangélisation des Noirs est quelque chose de tout à fait inutile. Mais David Livingstone est convaincu qu'il faut porter l'Évangile aux tribus qui sont au nord et qui sont totalement encore inconnues. Et alors, il entreprend des expéditions d'exploration pour découvrir ces nouvelles tribus qui habitent au nord. C'est d'ailleurs dans une de ces expéditions qu'un de ses fils est tué. En 1852, il rentre en Angleterre pour y installer sa femme et ses enfants parce qu'il se rend compte que c'est trop dur pour eux. Et il croit que, à l'instar de Hudson Taylor, que l'africanisation est la clé du travail missionnaire. Alors, il revient en Afrique pour s'engager vers le nord. Et il dit « J'irai aussi loin que je pourrai ». Il entreprend un voyage qui dure 6 mois. Et en 1856, il retourne en Grande-Bretagne. Il donne sa démission à la London Missionary Society. Et il est engagé cette fois-ci par le gouvernement britannique. Il retourne en Afrique en 1858 avec sa femme, qui meurt d'ailleurs en 1862. Et le but de Livingstone, c'est de remonter jusqu'aux sources du Nil. Les sources du Nil sont totalement inconnues. Pourquoi veut-il remonter jusqu'aux sources du Nil ? Pour faire œuvre de géographe, d'explorateur ? Non, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Mais il s'est rendu compte que tous les Noirs qui habitent l'Afrique orientale, disons sud-orientale, sont souvent vendus comme esclaves. Il y a un terrible trafic d'esclaves auquel participent les musulmans du Nord et les Arabes, et il veut non seulement évangéliser ces tribus, mais mettre fin aussi à ce trafic d'esclaves tout à fait éhonté. Et c'est ainsi qu'il va se mettre à la recherche des fameuses sources du Nil. C'est un voyage pratiquement sans retour, Donc, en 1865, il entreprend ce voyage. Puis, au bout de quelques mois, il disparaît. On le croit mort. Mais c'est alors qu'un autre missionnaire du nom de Stanley pense qu'il est vivant. Et c'est la fameuse épopée bien connue, n'est-ce pas, de la recherche de Livingstone par Stanley, n'est-ce pas, et qui font que finalement les deux hommes vont se rencontrer non loin des sources d'une île qui ont été découvertes par Livingstone entre-temps, n'est-ce pas. Le voyage de Livingstone a été un plein succès. Et au son retour, évidemment, Livingstone retourne en Angleterre pour dénoncer l'esclavage des Noirs. Il revient en Angleterre, où il va d'ailleurs passer les dernières années de sa vie. Et là, il va poursuivre son travail missionnaire. Les chefs autorisent, il prend langue avec des chefs, il négocie avec les chefs locaux pour permettre l'implantation de stations missionnaires, de telle sorte que, à partir de la moitié du siècle, il y a une profonde avancée depuis le sud, n'est-ce pas, en direction du nord. Ils ne pouvaient rien faire. Évidemment, les missionnaires ne pouvaient rien faire sans l'approbation des chefs locaux qui avaient droit de vie et de mort. Citons aussi parmi ceux qui ont évangélisé l'Afrique à cette période-là, Adolphe Mabille et François Coillard. Ce sont aussi des évangélistes qui ont évangélisé l'Afrique du Sud et notamment la région du Zambèze. En 1895, Cécile Rhodes envisage la création d'un grand empire en Afrique centrale, l'empire britannique évidemment. Et donc sur les pas de ces explorateurs va se créer, de ces missionnaires va se créer ce grand empire britannique. En Afrique occidentale, le Nigeria devient colonie britannique. Les Français tentent de s'opposer à cette mainmise britannique sur le Nigeria. Il y a à cette époque la compétition entre les deux puissances coloniales que sont la France et l'Angleterre, qui culminera évidemment avec le fameux incident de Fachoda, bien connu, n'est-ce pas, au cours duquel les Français seront évincés du Soudan. Il y a une ardeur colonisatrice et civilisatrice de ces deux pays qui est sans comparaison dans aucune période de l'histoire de l'humanité. Et à la fin du siècle, les Allemands aussi vont essayer de participer à l'aventure coloniale. Ils tenteront de mettre la main notamment sur le Cameroun. En 1864, donc, commence l'évangélisation du Nigeria. C'est heureux d'une certaine manière pour le Nigeria que ce soit les Anglais qui aient mis la main sur le pays et pas les Français. Ça a permis l'implantation des missionnaires protestants. À la fin du siècle aussi, l'évangélisation du Congo va bon train, bien que là-bas, les indigènes soient de véritables brutes, ce qui n'a pas beaucoup changé depuis, d'ailleurs. Les mœurs sont tellement cruelles et barbares que lorsqu'un chef meurt, ses esclaves sont enterrés vivants avec lui. En 1866, arrive au Katanga un certain Abbott, qui est un Écossais, et qui a d'énormes difficultés pour l'évangélisation de cette région. En 1891, la capitale du Katanga est atteinte. Le roi des Belges, d'ailleurs, devient roi du Congo à titre personnel. Et la mainmise d'une puissance catholique sur le Congo n'encourage pas, évidemment, n'est pas facile pour l'évangélisation du pays. L'Afrique orientale est d'une pénétration extrêmement difficile. Il faut souvent se heurter à cette question de l'esclavage. En 1881, par exemple, les sociétés missionnaires ont un défunt particulier pour acheter les esclaves. On en est là, n'est-ce pas? L'Ouganda est atteinte, est évangélisée à partir de 1862. Stanley y arrive, d'ailleurs, pour y découvrir que l'islam l'y a précédé. Et à Kampala, les chefs pratiquent chaque jour des exécutions, n'est-ce pas, c'est une horreur. Entre-temps, les missionnaires catholiques arrivent, il y a des divisions, des guerres, n'est-ce pas, des guerres entre missionnaires catholiques et protestants, des guerres au sens direct du terme, c'est-à-dire on s'entretue. Ça, c'est un des chapitres les plus honteux de l'histoire des missions. En 1894, les esclavagistes triomphent. Et finalement, pour mettre fin à cette situation, les missionnaires catholiques et protestants arrivent à un accord, ils se partagent le pays en zone d'influence. C'était bien la peine de s'entretuer pour en arriver là. Les Arabes ont l'habitude de venir se fournir en esclaves dans toute cette région-là. D'ailleurs, nombre d'entre eux sont homosexuels et les sodomisent. Les chefs violent les enfants, font tuer ceux qui résistent et l'évangélisation de toute cette Afrique orientale va être extrêmement difficile. Il va y avoir de très nombreux martyrs aussi, de la part aussi bien du côté des missionnaires que du côté des chrétiens locaux. Ce n'est que lorsque le gouvernement britannique construit un chemin de fer sur la côte que le pays peut commencer à se développer. Pendant ce temps-là, les Allemands s'emparent d'un pays qui est situé autour du lac Tanganyika, qui va d'ailleurs porter ce nom, n'est-ce pas ? Et là, au contraire, d'une manière tout à fait étonnante, des tribus entières vont se convertir. Au Nyasaland, qui est un pays proche, ce sont les Écossais qui implantent des missions. Et au Kenya, en 1908, arrive l'armée du salut. Lord Kitchener donc s'empare du Soudan, on l'a vu tout à l'heure en 1885, et il arrive à Khartoum en 1898, de telle sorte qu'il va y avoir une évangélisation du sud du pays. En 1885, le docteur Kellogg s'installe dans cette région-là, et il va donc commencer un travail très important. Le 19e siècle, c'est aussi l'époque où l'Amérique du Sud s'émancipe du joug espagnol. Du joug espagnol et portugais d'ailleurs. Les États d'Afrique du Sud vont devenir des États indépendants, ce qui va permettre aussi l'implantation de missions protestantes. La première mission protestante s'installe en 1885 à Rio. Elle s'appelle Aide au Brésil et elle va avoir un travail très important. En 1819, la Colombie devient indépendante et des missions méthodistes s'y installent. John Thompson, en 1825, s'y installe et il crée une société biblique. En 1856, ce sont les presbytériens américains qui arrivent et en 1814, il y aura dans ce pays 500 000 protestants, notamment parmi les chefs indiens. Les Esquimaux du Canada, à l'inverse de ceux du Groenland, n'ont pas été évangélisés. Et c'est un ancien marin, Edmund Peck, qui est un ancien marin de la baie d'Hudson, qui va évangéliser les tribus qui sont au-delà du cercle arctique. Entre 1883 et 1952, il y aura un travail important d'évangélisation dans cette région-là, notamment par les Anglicans, de sorte qu'aujourd'hui, 80% des Esquimaux sont Anglicans. À cette époque-là, nombreux sont ceux qui pensent que le monde entier pourra devenir chrétien et que on vit dans une époque tout à fait particulière à ce niveau-là. Certains pensent même que le 20e siècle sera le siècle où le monde entier sera devenu chrétien. Mais à la fin du siècle, un certain nombre de pays restent encore fermés, peu, tels le Népal, le Tibet et l'Afghanistan. Mais on peut dire qu'à la fin du siècle, dans tous ces pays, l'Évangile, dans tous les autres pays du monde, l'Évangile a été introduit. Le 19e siècle a été véritablement le grand siècle des missions. Le siècle où la parole de Jésus s'est accomplie, allée dans le monde entier et faite des disciples parmi toutes les nations. La Bible a été traduite dans la plupart des langues et nombre d'indigènes sont maintenant capables de prêcher à leur propre peuple dans leur propre pays. Là, l'épopée missionnaire du 19e siècle est un des chapitres les plus glorieux de toute l'histoire de l'Église, même si, évidemment, comme toute œuvre humaine, elle a aussi ses ombres. Parlons maintenant rapidement des missions catholiques. Les missions catholiques au XIXe siècle n'ont pas été en reste. Au XVIIIe siècle, l'état des missions catholiques était en pleine débâcle. Cela dû à deux causes, la liquidation des jésuites par la plupart des pays et par la Révolution française. En 1805, Napoléon Bonaparte décide de construire des ordres missionnaires français. Et parmi ceux-là, il y a les Pères du Saint-Esprit et les Lazaristes. Ça va être les deux mouvements missionnaires catholiques qui vont être créés à cette période-là. En emprisonnant le pape Pie VII, Napoléon en a fait un martyr. et il va aller à l'inverse du but qu'il a recherché. Et ce faisant, il va y avoir un renouveau catholique et un renouveau aussi des missions. C'est l'époque de l'ultramontanisme, ça veut dire que nombre d'évêques français vont mettre fin au gallicanisme qui avait marqué le catholicisme français jusqu'alors, notamment les archevêques Veuillot et Manning. Et le 19e siècle va être ultramontain, ça veut dire l'épiscopat français va être entièrement soumis à Rome. Le pape, au 19e siècle, après l'épopée napoléonienne, va avoir une influence qu'aucun autre homme n'a sur la terre. Et à son retour à Rome en 1814, le pape Pie VII rétablit les jésuites, malgré les excommunications éternelles de Benoît XIV qui l'avait précédé. Mais les papes ne retrouveront pas le pouvoir qu'ils avaient eu avant la Révolution française. En fait, les jésuites avaient continué à exister secrètement. En 1816, un nouvel ordre est créé, celui des Oblats de l'Immaculée Conception, et en 1817, les Maristes. En 1859, ce sont les Pères Blancs qui sont créés par le cardinal de la Vigerie, ainsi que les frères des écoles chrétiennes qui ont aussi une vocation missionnaire. À cette époque-là, deux grands papes aussi vont avoir une vision missionnaire importante, c'est le pape Pie IX et le pape Léon XIII, qui vont sensibiliser le peuple chrétien à la mission. En 1831, le pape Grégoire et à partir de là, donc, les différents ordres missionnaires créés entre-temps vont être envoyés pour travailler. Et comme nous l'avons dit, chaque fois que les protestants ont du succès, les catholiques en ont aussi. Il y a une communauté de destin étonnante entre les uns et les autres. Le travail catholique est interdit en Indonésie par les Hollandais qui ont pris le pouvoir là-bas. Et ce faisant, il y aura malgré tout possibilité pour les catholiques de créer un vicaire apostolique en 1844. Et en 1842, quatre évêchés sont créés dans les îles du Pacifique. Il y a aussi un vicariat au Japon, qui comprend l'Inde, Goa, Cochin, qui est sous le pouvoir des Portugais. Et finalement, en 1859, un évêché créé à Goa, et le titulaire a rang de patriarche de Colombo, de Pondichéry, de Madras, de Calcutta et de Bombay. Tous les évêques sont européens. Mais petit à petit, il va y avoir un certain nombre de prêtres indigènes qui vont être ordonnés. Et en 1896, Léon XIII crée une hiérarchie de rite syriaque à Kerala, donc l'état de Kerala en Inde. Il y avait toujours eu une chrétienté syriaque dans cette région-là, qui est récupérée par Rome et qui devient une chrétienté uniate. Les catholiques créent des écoles qui formeront des élites qui dirigeront l'Inde de demain. Mais le point faible des catholiques en Inde venait de ce qu'ils étaient des étrangers. En Chine, il y a toujours eu une présence catholique. Et les catholiques sont prêts à prendre beaucoup plus de risques que les protestants jusqu'à l'arrivée du Hudson Taylor. Par exemple, entre 1814 et 1840, quatre prêtres sont martyrisés. À partir de 1804, à peu près tous les ordres catholiques pénètrent en Chine, patronnés par la France de Napoléon III notamment. Et Napoléon III se veut le défenseur de l'Église catholique. Les missions catholiques vont bientôt dépasser les missions protestantes en Chine. Et en 1890, à la fin du siècle, il y aura 365 missionnaires catholiques en Chine pour 500 000 de baptisés. Lors de la révolte des Boxers, la colère de ces derniers se dirige essentiellement contre les chrétiens qui sont regardés comme des agents de l'étranger. Il y aura à peu près 30 000 chrétiens chinois qui vont être massacrés pendant la révolte des Boxers. Après la révolte, l'Église catholique va repartir à l'attaque, si j'ose dire, et va trouver des conditions extrêmement favorables. Et en 1900, il y aura 720 000 catholiques baptisés en Chine. C'est alors que certains plaident pour une indigénisation de l'Église qui va s'accomplir à partir de cette période-là. Le Japon était resté, lui, fermé à la pénétration chrétienne pendant très longtemps. En 1859, les premiers missionnaires arrivent au Japon, et ce qui fait qu'ils redécouvrent une Église chrétienne qui a vécu coupée du reste du monde chrétien et qui s'est maintenue en secret durant la persécution. Mais cette Église indigène refuse obstinément d'être dirigée par des étrangers. En 1875, la religion chrétienne est encore interdite au Japon. Et il va y avoir des persécutions sporadiques qui vont éclater pendant toute cette période-là. En 1891, Léon XIII ordonne le premier évêque local, mais le catholicisme au Japon ne sera jamais un mouvement de masse. En Corée, en 1777, un groupe de chrétiens coréens s'était converti, contact de chrétiens chinois d'ailleurs, et ils se sont organisés sur le modèle catholique. Mais cette église a été l'objet de persécutions et ne s'en remettra jamais jusqu'à ce jour. Finalement, la pénétration catholique là-bas, en Corée, sera extrêmement difficile. En Indochine, les catholiques vont obtenir, alors là, leur plus grand succès. Ils vont avoir des missions extrêmement florissantes, mais avec de nombreux martyrs également. En 1867, Napoléon III intervient en Indochine pour sauver justement les catholiques qui sont menacés de persécution et qui deviennent libres de pratiquer leur religion après la conquête française, après que l'Indochine soit devenue protectorat français. La haine des empereurs locaux devient encore beaucoup plus grande contre les missionnaires après l'intervention des Français, de sorte que le christianisme va apparaître en Indochine comme un produit étranger, une importation étrangère. D'ailleurs, c'est ce qui va provoquer aussi les guerres ensuite jusqu'à nos jours, jusqu'à 1975, disons. En 1885, la France occupe toute la péninsule après que 100 000 chrétiens aient été mis à mort. 60 ans après l'occupation française, il y a 1 million de chrétiens. La colonisation a permis donc l'expansion du catholicisme. Par contre, la Thaïlande résiste au christianisme. En 1856, la France conclut un traité avec la Thaïlande au terme de laquelle la Thaïlande permet le travail missionnaire. En Birmanie, ce n'est qu'en 1856 que la Société des missions de Paris s'implante. Il y a des difficultés nombreuses avec l'islam dans ce pays et avec le bouddhisme, bien sûr. En Indonésie, les catholiques ont beaucoup de mal à s'y établir, nous l'avons vu tout à l'heure, et ce n'est qu'en 1855, quand Flores devient portugaise, puis ensuite Bornéo, que les catholiques peuvent s'implanter. Dans les îles du Pacifique, les catholiques arrivent bien après les protestants. D'ailleurs, souvent, leur entreprise missionnaire consiste à chercher à détacher les protestants pour les amener au catholicisme. C'est ce qui se passera, par exemple, en Nouvelle-Calédonie. À Tonga, Wallis, Futuna, ils parviennent à leur fin et les îles deviennent quasi entièrement catholiques. Mais en Nouvelle-Guinée, 8 de leurs missionnaires meurent pendant les 50 premières années. À Tahiti, au Samoa, au Fidji, ils concurrencent les protestants, mais les protestants tiennent ferme. Même chose dans les Gilbert et dans les îles Ellis. Au Moyen-Orient, les catholiques cherchent à créer des églises uniates, ça veut dire garder les rites locaux, les rites orientaux, mais faire en sorte que les églises reconnaissent la primauté du pape. C'est le cas, par exemple, en Arménie, au Yémen, avec les Melkites, qui sont des Grecs orthodoxes, les Coptes, les Éthiopiens, les Assyriens, les Maronites. Dans toutes ces dénominations-là, il y a des scissions. Les catholiques provoquent des scissions. Il y a ceux qui se rattachent à Rome et ceux qui refusent. Même chose en Éthiopie, où il y a 3 millions de chrétiens. Là, les catholiques sont persécutés par les chrétiens locaux. En 1866, les Anglais tentent de déposer l'empereur d'Éthiopie. Et en 1885, les Italiens arrivent en Érythrée. En Afrique, il n'y aura plus de tentative autre de faire pénétrer le catholicisme jusqu'à ce qu'en 1805, un groupe de missionnaires tente une implantation au Sénégal. Ce n'est qu'en 1868 que les missionnaires catholiques reviendront en Afrique avec les pères blancs et les sœurs blanches, n'est-ce pas ? Le cardinal de la Vigerie veut créer par eux une milice du Christ pour combattre l'esclavage, mais là aussi c'est un échec. Au Congo, il tente de créer des chrétientés, c'est-à-dire des villages chrétiens avec fermes, chapelles, etc. Bon, c'est une sorte de paternalisme qui finalement fera long feu assez rapidement. Voilà, si vous voulez, on va s'arrêter là pour ce soir. Pour ce qui est des missions catholiques, est-ce que vous avez des questions à poser sur cet essor missionnaire ?